Avant de prier ensemble, je voulais juste lire, je ne l'ai pas demandé, donc je vais juste vous le lire. C'est quelques versets, c'est une petite partie de la prière sacerdotale, donc la prière que Jésus fait pour ses disciples, ses apôtres et tous ceux qui viendraient après lui. Et c'est avant qu'il ne commence le cheminement vers la mort et puis la résurrection. Ça se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Je vous lis juste quelques versets. « À présent, je retourne auprès de toi. Et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a pris en haine. » Parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer de ce monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole, elle est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans ce monde, moi aussi, je les y envoie. Je ne me consacre pas moi-même à toi, je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, loué sois-tu que c'est toi-même qui as fait cette prière, que nous soyons consacrés par la vérité qui vient de Dieu, et que cette vérité est ta parole. Seigneur, loué sois-tu que tu as fait cette prière pour tous ceux qui étaient avec toi, mais aussi pour tous ceux qui devaient venir en très grand nombre après, dans les siècles des siècles. Seigneur, loué sois-tu que ta parole est restée la même, qu'elle est toujours la même vérité, et que nous soyons au bénéfice de cette parole et de la grâce qu'elle nous apporte. Ce matin, Seigneur, nous savons que nos pensées sont souvent abîmées, souvent déformées, souvent polluées. Nous avons besoin, Seigneur, encore que nos pensées soient transformées, renouvelées par les pensées que ta parole veut nous enseigner. Seigneur, visite-nous en ce sens. Tu connais ce qui est en chacun de nous pollué par la pensée du monde, ce qui est en chacun de nous abîmé par notre vécu, par nos expériences personnelles. Seigneur, ce matin, que nous apprenions encore de toi comment nous laisser renouveler dans notre pensée, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu as prié pour ça, que tu l'as demandé au Père et que ce que tu demandes au Père t'a été accordé. Amen. Amen. Prêt pour le retour de Jésus-Christ, on reste dans notre perspective, hein, si vous voulez bien. On peut durer longtemps dans la perspective du retour de Jésus-Christ, dans la perspective de ce texte qui nous a été lu encore ce matin par notre frère. Prêt pour le retour de Jésus-Christ, comment est-ce que nous allons gérer nos peurs pendant cette période où des événements vont se produire? On a vu ça une autre fois. Comment nous allons gérer les questions que nous nous posons pendant toute cette période où il y aura des choses où nous nous poserons des questions et où nous n'aurons pas nécessairement les réponses? On a vu ça une autre fois. Aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on aborde justement comment laissons-nous contrôler nos pensées? Comment allons-nous vivre avec nos pensées, les pensées que nous laisse le monde et les pensées que nous laisse la parole de Dieu? Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir parfois des bâtiments comme ça, hein. Vous voyez, ça c'est le carnaval magique. Vous voyez les passagers, là, ils sont là-bas sur le ponton avant, là, ils sont minuscules. C'est un bâtiment tout à fait impressionnant. Quand on voit un bâtiment pareil, on se dit, mais comment est-ce possible que l'eau porte ça? Comment c'est possible que l'eau porte un truc pareil? Par exemple, ici, le carnaval magique, c'est 360 mètres de long, 65 mètres de tirant d'air, 65 mètres de large. Il reçoit 6200 passagers et 2300 de membres d'équipage. Ça fait 8500 personnes. Ça fait presque deux fois Forêt Nationale complet. Ça fait 2700 cabines. Ça fait 525 000 mètres carrés de tôles qui sont soudées. Ouais, 525 000. Ça fait, Gaston, 5000 kilomètres de fil électrique. C'est presque aller jusqu'en Grèce et revenir de Grèce avec un fil électrique. 5000 kilomètres carrés de fil électrique. Tous les jours sur ce bateau sont traités 4 millions de litres d'eau pour voir aux besoins de ces 8500 personnes qui s'y trouvent. Il y a 3 moteurs de 16 cylindres, 3 moteurs de 10 cylindres. Mais c'est pas des moteurs avec des cylindres comme dans votre voiture, hein. C'est des cylindres 4 fois comme moi, hein. Il y a 4 moteurs qui font bouger la proue. Il y a 4 moteurs qui font bouger l'étrave. Pourquoi vous dire tout ça ce matin? Parce qu'en réalité, ce monstre colossal, il est piloté par ce petit poste de pilotage. Quelques manettes, quelques écrans, quelques personnes à gauche qui s'occupent de ce qui se passe à gauche, quelques personnes à droite qui s'occupent de ce qui se passe à droite, et quelqu'un au milieu qui s'occupe de tout le restant. C'est là qu'on décide quand on s'arrête. Et il vaut mieux bien décider, parce que quand ce bateau il est en vitesse de croisière, il faut couper tous les moteurs, et il va encore partir sur son air pendant 20 kilomètres. Alors il vaut mieux bien savoir quand on arrête ou quand on n'arrête pas. Ce bateau, quand on décide de l'arrêter en vitesse de croisière, en urgence, et qu'on met tous les moteurs, les 2x16 cylindres, les 2x12 cylindres, en marche arrière, il va encore continuer pendant entre 3 et 5 kilomètres. Il vaut mieux pas être dans son chemin. Mais, en fait, quel est notre poste de pilotage à nous? Comment est-ce qu'on pilote notre vie, nous? C'est quoi qui commande notre vie? Nous avons, nous aussi, un petit poste de pilotage qui va conditionner tout notre comportement. Ce sont nos pensées. Nos pensées, c'est une puissance extraordinaire. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a dit, hein, j'ai vu qu'il y avait un philosophe qui a dit, toute ta journée, c'est tes pensées. Et c'est vrai que j'ai reçu un petit diaporama de mon épouse l'autre jour, je voyais que la dernière image, c'était toutes des citations, la dernière citation, c'était une citation de Bouddha, et j'ai vu que c'est Bouddha qui a dit ça. Il a dit, tu vis ce que tu penses. C'est parfaitement vrai. Tu vis ce que tu penses. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, quand vous vous êtes levé, vous avez décidé de brosser vos dents. Vous avez brossé vos dents, décidant de commencer soit par la droite, soit par la gauche. Mais vous avez décidé ça. Vous avez pensé comment vous alliez faire. Si pour les hommes, vous vous êtes rasé, vous avez commencé par le côté. Vous avez pensé comment c'est. La confiture que vous avez mise sur votre tartine, vous l'avez pensé. Moi, j'ai écouté ce matin un morceau de musique pendant que je déjeunais. Je l'ai écouté parce que je l'ai choisi. Et je sais que tantôt, je vais choisir ce que je vais manger au restaurant, si je vais au restaurant. Et je sais que tantôt, ce soir, si j'ai pensé que j'allais embrasser mon épouse, ben je sais que ce soir, j'embrasserai mon épouse. Je vis ma vie en fonction de ce que je pense. Et mes pensées sont une puissance extraordinaire. Parce que vous le savez comme moi, c'est ce que je pense vouloir écouter que j'écoute. C'est ce que je pense vouloir regarder que je regarde. Ma vie entière est faite des choses que je pense. La question qui se pose, c'est qui contrôle tes pensées? Qui contrôle mes pensées? Ah, quand on est converti, qu'on est chrétien, c'est facile. On regarde dans la parole de Dieu, on regarde ce que nous dit l'évangile de Dieu, et nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce texte nous dit que, en permanence, quand on a connu la grâce de Dieu, on passe sa vie à renverser les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la vraie connaissance de Jésus-Christ, et que nous le faisons comment? En rendant nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Rendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Mais, mes amis, en réalité, vraiment, dans la réalité de votre vie au quotidien, je suppose que vous êtes comme moi, que vous êtes loin d'être de ceux qui mettent toutes leurs pensées à l'autorité captive et l'obéissance captive de Jésus-Christ. Qui contrôle tes pensées? Depuis toujours, c'est le monde qui contrôle nos pensées. C'est le lieu où tu vis qui contrôle tes pensées. C'est l'environnement où tu vis qui contrôle tes pensées. C'est ce que tu entends, c'est ce que tu vois, c'est les émissions que tu regardes, c'est les textes que tu lis qui contrôlent ta pensée. Vous savez que nous avons l'habitude de dire que nous sommes non pas dans un combat où se mêlent la chair et le sang, mais un combat qui se livre dans les lieux célestes contre des autorités, des dominations. Dans la prière sacerdotale dont nous venons relire un extrait, Jésus dit « Je te prie non pas de les enlever de ce monde, mais de les garder, les préserver du diable. » Le diable veut s'insinuer dans nos pensées. Le diable veut modifier nos pensées. Le diable veut transformer nos pensées. Le diable veut être à ce poste de commande où il y a quelques manettes là-bas dans notre tête, parce que le diable sait que quand il modifie, perturbe et transforme nos pensées, nous allons aller dans la vie que lui veut pour nous. C'est pas nouveau. Quand vous lisez ces passages qui se situent au moment où Jésus vient vraiment pour la première fois de faire cette révélation d'une manière la plus claire et nette qui soit. Maintenant, il est temps d'aller à Jérusalem. Il est temps que je meure là-bas. Il est temps que je ressuscite là-bas. L'apôtre Pierre le prend par le bras, vient dans un petit coin tout seul et lui dit « Non, à Dieu ne plaise, Seigneur. Ça t'arrivera pas, ça. Ça t'arrivera pas. » Et Jésus répond « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées, ce sont les pensées des hommes. C'est pas nouveau, mes amis. Nous baignons dans le monde, nous baignons dans cet environnement. Si on avait été là ce jour-là, on aurait pu dire aussi, oh, Jésus, il fait que parler du diable, les chrétiens, ça fait que parler de Dieu et du diable, l'ennemi de Dieu, le diable, et on n'entend que ça. C'est clair ce que dit Jésus. La pensée de Dieu s'était bien établie. Maintenant est venu le moment où le Fils va donner sa vie pour racheter le monde. C'était clair et net, c'était la pensée de Dieu. Et Pierre, qui a vécu si longtemps avec Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la pensée des hommes. Il dit la pensée du diable. Mes amis, nous sommes dans ce monde, nous baignons dans l'esprit du monde, nous sommes imprégnés en permanence de l'esprit du monde et nous savons bien que l'esprit du monde, c'est l'esprit qui est contre l'esprit de Dieu. L'esprit du monde est contre l'esprit de Dieu. Tout le temps. Vous dites, ah, quelle vision du monde alors, et comment on vit dans le monde alors, quoi on ne peut pas vivre normalement dans le monde. L'esprit du monde est contre l'esprit de Dieu tout le temps. Vous savez bien que l'esprit du monde ne voit pas le couple entre un homme et une femme comme l'esprit de Dieu. Il ne voit pas l'amour entre un homme et une femme comme l'esprit de Dieu le voit. Il ne voit pas la famille comme l'Esprit de Dieu la voit. Vous savez très bien que l'Esprit du monde ne voit pas de la même manière que l'Esprit de Dieu les doctrines du monde, l'avortement, la sexualité du monde, l'homosexualité du monde, l'euthanasie. Vous savez très bien que l'esprit du monde n'est pas en accord avec l'origine du monde quant à l'accord que donne à l'origine du monde l'esprit de Dieu. Vous savez très bien que l'esprit du monde n'est pas en accord avec la vie que nous menons par rapport à l'esprit de Dieu. n'est pas en accord avec notre mort, pas en accord avec notre espérance de la vie éternelle. Vous pouvez prendre tous les points que vous voulez et vous allez voir que chaque fois, il y a inimitié, il y a antagonisme entre ce que l'esprit du monde veut faire passer comme message et ce que l'esprit de Dieu fait passer comme message. En fait, l'esprit que le monde veut nous communiquer, c'est l'esprit où on est libre de tout contrôle. C'est exactement la même dynamique que celle de mai 68. Il est interdit d'interdire sans foi ni loi. La pensée du monde, c'est tu es libre de tes pensées. Libre de tes pensées. Il n'y a pas de contrôle à tes pensées. En fait, l'esprit du monde, la pensée du monde, c'est de dire tu peux fantasmer sur tout ce que tu veux, tu es libre de faire ça. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de conséquences. Tu es un homme libre, tes pensées t'animent, vas-y, fonce, elles sont à toi. Il y a des dangers à fantasmer. Vous savez, le fantasme, ce que ça veut dire, le fantasme, c'est imaginer certaines choses, imaginer certains comportements, imaginer à propos de certaines choses ou de certaines personnes des choses imaginables. C'est ça, fantasmer. C'est dangereux, le fantasme, mes amis. Très dangereux. Si on me dit que le fantasme n'est pas dangereux, si on me dit que je n'ai pas besoin d'un contrôle pour mes pensées, j'ai un gros problème parce que je connais mes pensées. Je sais les pensées que je dois tout de suite mettre à la poubelle. Je les connais bien. Et je sais très bien que le jeune homme qui vient de se marier et qui fantasme sur la meilleure amie de sa femme, je crois que dans quelques temps, il va avoir des problèmes de couple. Je ne suis pas visionnaire, mais je peux vous dire que ce fantasme-là, il va bien se concrétiser, il va se passer des choses. Vous savez comme moi que quand vous fantasmez sur un projet, par exemple, parce qu'on peut fantasmer sur un projet, je vais faire ceci, moi vraiment, non, je ne vis plus comme ça, je vais vivre. Vous savez qu'on commence à en parler, nos pensées travaillent. On commence à en parler avec les autres, on commence à parler avec ceux qu'on aime de ça, puis on commence à regarder sur notre compte en banque si ça va aller. Et puis, du fantasme, on passe à l'action. Libre cours à notre pensée, sans contrôle, c'est dangereux parce que tout commence dans nos pensées. Il y a des écrivains célèbres, reconnus, qui écrivent et qui, dans leurs livres, mettent des passages entiers qui sont l'éloge à les choses les plus abominables. Vous vous souvenez, dimanche passé, quand Pierre Albert et son épouse Béatrice étaient là, ils ont parlé de ce témoignage, de ce qu'ils faisaient parmi les femmes qui étaient violées, et ils avaient évoqué le cas de cette petite fille de 4 ans qui a été violée. Pas de canevas pour nos pensées, liberté à nos fantasmes. C'est les fantasmes qui amènent à ça. C'est pas des choses normales dans la tête d'un homme qui amènent que quelqu'un viole, un homme viole une petite fille de 4 ans. Ce sont des fantasmes, ça. Des choses, des libertés de pensée qu'on laisse venir, qu'on laisse germer, qu'on laisse grandir et qui, au moment venu, crac, nous rendent esclaves de quelque chose. Les fantasmes et la liberté de penser, c'est quelque chose de dangereux. Notre pensée est une puissance redoutable. C'est d'ailleurs ça qui nous écarte toujours de Dieu. Avant que nous ne connaissions Dieu, qu'est-ce qui faisait de nous des pécheurs? Nos pensées. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 2 au chapitre 3. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, et nos pensées. C'est nos pensées qui nous ont fait commencer à avoir des convoitises de la chair. Romain explique très bien ça. Et c'est cette convoitise de nos pensées suscitée par les commandes, les manettes dans notre cabine de pilotage qui nous ont amenés à accomplir les volontés de notre chair. C'est une puissance redoutable auquel Dieu prête une très grande attention. C'est normal. Dieu ne s'occupe pas seulement de ce que nous faisons. Il s'occupe aussi de nos pensées, puisqu'il sait que ce que nous faisons va découler directement de nos pensées. C'est pour ça que Proverbe 15, 26 dit « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. » Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Regardez, quand Jésus s'adresse à cet homme en lui, dit, en lui posant la question « Quel est le plus grand des commandements ?» Et cet homme lui répond parfaitement. Il lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Ça, c'est le premier et le plus grand de tous les commandements. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » La pensée aux yeux de Dieu, c'est phénoménal. C'est quand toute la pensée se focalise sur Dieu qu'à ce moment-là, tous les comportements et la vie que je vis va être différente. Ta pensée entièrement consacrée à Dieu. Et Dieu porte un jugement sévère contre la libre pensée. Très sévère. Regardez ici, disons que c'est dans la bouche du prophète Ésaïe, c'est une réprimande qui s'adresse au peuple de par le prophète Ésaïe, et Dieu dit, mais j'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple rebelle. Il marche dans une mauvaise voie. Il marche au gré de ses pensées. J'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple qui ne cesse de m'irriter. Qu'est-ce qui irrite Dieu ? Marcher selon nos pensées. En fait, on dit, le péché, c'est ça, c'est ça. Le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est la séparation. Le péché, c'est marcher au gré de ses pensées. C'est ignorer la pensée de Dieu et dire, je me fous de la pensée de Dieu. La pensée qui compte, c'est ma pensée et je marche selon mes pensées. Quand vous faites ça, vous êtes le plus grand pécheur qui soit aux yeux de Dieu, puisque c'est ça qui irrite Dieu et c'est ça qui fait dire que ce peuple est un peuple rebelle. Mes amis, ne soyons pas aveugles. On a beau connaître ces choses, les comprendre, être d'accord avec. On sait bien que ce n'est pas du jour au lendemain que quand on a compris le message de l'Évangile, il y a une sorte de commutateur qui s'est fait dans notre cerveau, qui a bousillé toutes nos vieilles pensées et qui les a remplacées par toutes les bonnes pensées de Dieu. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas remplacer nos vieilles pensées instantanément par de nouvelles pensées sous prétexte qu'on connaît l'Évangile. Ça n'a pas été automatique. Nous avons notre passé, nous avons notre histoire, nous avons notre vécu, nous avons les épreuves. Tout ça a laissé des traces, des marques qui ont conditionné notre manière de penser. Ça ne se remplace pas comme ça d'un petit commutateur on ou off. Ce qui nous intéresse peut-être, c'est de nous centrer sur la pensée de Dieu, puisque si on ne veut pas être sensible à la pensée du monde, il faudrait peut-être savoir c'est quoi la pensée de Dieu. On connaît la pensée de Dieu, il se révèle dans l'Évangile. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que nous soyons pardonnés. Dieu veut que nous soyons purifiés. Dieu veut nous réconcilier avec le Père. Dieu veut nous donner la vie éternelle par le sacrifice de Jésus-Christ. Ça, c'est la pensée de Dieu pour les hommes. Mais nous savons aussi qu'individuellement, ça ne s'arrête pas là. Quand nous avons compris ces choses, le Seigneur veut nous façonner, le Seigneur veut nous modeler, le Seigneur veut nous transformer. Le Seigneur veut, petit à petit, par la présence de l'Esprit, toucher nos pensées. Toucher nos pensées une à une. C'est comme ça que l'Esprit agit. Il touche nos pensées, et toujours librement. Il n'y a pas de force, hein, il n'y a pas le Saint-Esprit qui vient dans notre vie, qui prend les manettes des commandes des pensées et qui dit « Mais non, tu penses autrement ». Non. C'est le Saint-Esprit qui va nous éclairer sur les pensées qui sont abîmées, polluées, cassées, pour nous dire, ça c'est la bonne pensée. Et c'est alors, quand nous laissons le Saint-Esprit agir dans cette tâche-là, que petit à petit, effectivement, Dieu va se mettre aux commandes de notre vie. Et que nous allons vivre selon ce que Dieu veut pour nous. C'est comme ça le mécanisme. Mais, Il nous appartient à nous de vouloir ça. Il nous appartient à nous, quand nous disons nous attendons le retour de Jésus-Christ, nous voulons être prêts pour le retour de Jésus-Christ, il nous appartient à nous, c'est un choix que nous décidons. Oui, Seigneur, j'aimerais que tu sois aux commandes de ma vie. Oui, Seigneur, dans l'attente du retour de Jésus-Christ, j'aimerais que ma vie soit basée, fondée sur les principes de la pensée de Dieu. Ça, c'est mon choix à moi, c'est le choix à personne. Peut-être ce matin, la question qu'on doit se poser en priorité, c'est est-ce que oui ou non, en ce temps maintenant où on n'arrête plus de parler du retour de Jésus-Christ, je veux que le Seigneur soit aux commandes de ma vie. Si nous voulons nous laisser transformer par le Saint-Esprit pour que la pensée qui est en nous, qui est polluée par le monde, soit une pensée qui ressemble davantage à la pensée de Dieu, il faut savoir comment le Saint-Esprit fonctionne. Parce que si nous ne savons pas comment le Saint-Esprit fait ça, nous allons nous retrouver assis sur une chaise en disant « Moi, je veux que le Seigneur change ma pensée. Je veux que le Seigneur change ma pensée. » Parce que je ne suis pas sûr que ça, c'est une bonne pensée. Je ne suis pas sûr non plus que ça, c'est une bonne pensée. Alors, je veux que le Seigneur change ma pensée. Le Saint-Esprit a un mode d'action. Il nous appartient de savoir comment il va influencer ma pensée. La première chose, on l'a dit, c'était la prière de Jésus. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par cette vérité. Dans Jean 17, 7. La parole de Dieu, on l'a dit encore plusieurs fois ce matin, est notre détergent, notre dépolluant. Moi, je pense souvent à la parole de Dieu quand je détartre les dents. Parce que chaque année, les gens qui détartrent les dents, ils disent « Mais comment ça se fait que j'ai autant de tartre hein? ?» Alors chaque année, on dit « Ah, parce qu'ils disent « D'où ça vient le tartre ?» Alors on dit « Bah, le tartre, ça vient de certaines colonies bactériennes qui vivent dans ta bouche. Il y en a des qui sont protéolytiques, il y en a d'autres qui sont glycolytiques. Les protéolytiques, bah, elles abîment les cellules. Alors ça fait des exudats qui se déposent sur les dents. À cause de ça, ça fait la plaque. Puis après, l'acidité de ta salive, ça précipite le carbonate de calcium, blablabla. » Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est ta bouche mince, c'est ta bouche à toi, c'est ta salive à toi, c'est tes dents à toi. Et pourtant, alors que c'est ta bouche à toi, que c'est tes dents à toi, que c'est ta salive à toi, le tartre se met en plein dedans, sur tes dents, dans ta bouche. Et il faut l'enlever. Ça m'interpelle toujours, parce que je me dis, c'est comme ça que notre pensée est polluée dans le monde. C'est notre monde, et c'est ma vie à moi, et c'est mes choix à moi. Mais c'est pollué, c'est contaminé, le tartre se dépose, et il faut l'enlever. La parole de Dieu, c'est ce qu'elle fait. Elle nettoie. Elle nettoie, elle lave, elle détartre. Souvent, les gens, hein, moi, souvent dans ma famille, on m'a dit ça, certaines personnes m'ont dit, oh, quel lavage de cerveau. Mais quel lavage de cerveau. Mais donc, t'as besoin comme ça d'une référence pour laver tout le temps ton cerveau. Quel conditionnement. Et c'est vrai que ça nous choque un peu quand on nous dit ça. Hein, on se sent un peu comme des humiliés, là, des rien du tout qui savent rien décider. On a besoin du lavage de cerveau de quelqu'un d'autre. De toute façon, on a tous le cerveau lavé par quelqu'un. Ou par quelque chose, ou par une idée, ou par un désir. On a tous le cerveau lavé. On choisit qui lave notre cerveau. Et c'est vrai que ces gens n'ont pas tort. Finalement, c'est vrai. La parole de Dieu, c'est un lavage de cerveau. Il nettoie notre cerveau pour que nos pensées deviennent les pensées de Dieu. Deuxième élément par lequel, et que nous devons connaître pour savoir, si tu sais que le moyen que Dieu utilise pour détartrer ta vie avec tes pensées entartrées, que c'est la parole de Dieu. Plonge-toi de nouveau dans la parole de Dieu, dans tes questions et dans tes interrogations. Deuxième élément, c'est la communion. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes là? Mais parce que nous voulons, comme on l'a fait, louer le Seigneur, nous voulons commémorer, nous voulons. Écoutez aussi, encore une fois, nous avons besoin du temps où nous arrivons avec nos pensées pour dire, Seigneur, il y a des choses à nettoyer, des choses à purifier. Vas-y, Seigneur. nettoie, purifie. Nous avons besoin de ce moment-là. C'est pour ça que, comme a dit Gaston, nous venons de prier pour les petits-enfants, ou les jeunes, ou les grands. C'est pour ça que nous mettons nos enfants dans les écoles du dimanche et dans les camps. Ça aussi, on m'a dit, moi, oh, tu sais vraiment, c'est de l'hitlérisme. C'est de l'hitlérisme. Tu conditionnes la pensée de tes enfants. Mais c'est incroyable. Mais bien sûr, nos enfants, depuis qu'ils sont tout petits, sont dans la pensée du monde. La pensée du monde remplit leur tête. Ils doivent venir ici pour que les moniteurs, les monitrices de l'école du dimanche leur donnent l'autre pensée, la pensée de Dieu. C'est là que eux vont pouvoir, dans le vécu, dans l'expérience, dans l'apprentissage, faire la jonction, faire le partage et décider pour la pensée du monde ou la pensée de Dieu. C'est le rôle de la communion. Je suis content que ce matin, Gaston a plusieurs fois évoqué les paroles des chants. Hein, c'est ce qui a permis de dire ce qu'il voulait dire à ses enfants. C'est ces chants, il a donné plusieurs exemples des choses qui sont restées gravées dans sa tête grâce au chant, par le chant. Vous avez vu ce verset dans Éphésiens qui nous parle de la manière dont s'entretient la foi, la pensée, par les psaumes et les cantiques que nous chantons ensemble. C'est pas de l'émotion, hein. Oui, c'est vrai que la musique, vous faites comme moi sans doute, je suppose que vous avez des moments où pour vous retrouver vraiment seul, à seul avec Dieu, vous avez besoin de certaines musiques. C'est pas pour partir dans une émotion, c'est parce que vous savez bien que cette musique-là élève votre âme, qu'elle efface les choses qui doivent s'effacer et qu'elle vous met dans une dynamique de présence avec Dieu. Mais si en plus vous êtes attentif aux paroles, combien de fois les paroles d'un cantique que vous avez appris vous reviennent à la tête? Si on vous disait, allez, pour demain, chacun étudie une page complète de la Bible ici, et après-demain, on se présente, on récite ça par cœur. Ce serait dur, hein? Ce serait hyper dur. Enfin, je ne sais pas, peut-être pour vous, en tout cas. Moi, j'aurais dur à mémoriser une page de la Bible. Ça, c'est sûr. Par contre, les chants, les cantiques que nous avons appris, ils sont là. Et ils redonnent les vérités que nous avons apprises de la part de Dieu, de la part de la parole de Dieu. Ces cantiques-là, ils sont là. Ils sont là pour renettoyer, redétartrer, repurifier nos pensées. Troisième élément, la prière. Les lieux, mes amis, où votre pensée peut être purifiée, c'est lorsque vous lisez la parole qui sanctifie, c'est lorsque vous êtes à l'écoute dans la communion fraternelle, et c'est lorsque vous êtes dans la prière. Regardez dans Philippiens 4:6, nous lisons, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu. » qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ah, nous connaissons bien la première partie. Ne vous inquiétez pas. Faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications, par des moments de louange, des actions de grâce. Ça, nous connaissons bien. Nous connaissons bien la première partie de la deuxième partie. Et la paix de Dieu, envahira votre cœur. Nous connaissons ça. On prie parce qu'il y a une détresse, il y a quelque chose, on ne comprend pas, on voudrait savoir, on a besoin de Dieu. Et on se relève et on a la paix dans le cœur. On connaît bien ça. Mais la deuxième partie, cette prière-là gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est pendant que nous prions que, d'une manière ou d'une autre, l'Esprit de Dieu maintient notre pensée en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est le lieu où notre pensée, encore une fois, est corrigée, purifiée, transformée et éclairée de la pensée que Dieu veut que nous ayons en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit influence notre pensée par ces trois éléments que nous venons de mentionner. Mais le Saint-Esprit influence aussi notre pensée en nous aidant à nous focaliser sur ce qui était la priorité de la pensée de Jésus-Christ. Alors, il y a beaucoup de choses qui étaient dans la pensée de Jésus-Christ, évidemment. Mais peut-être trois éléments fondamentaux sur lequel le Saint-Esprit essaye toujours, toujours, toujours de revenir pour purifier notre pensée. C'est la première pensée qui était en Jésus-Christ, celle de l'humilité. Nous lisons Philippiens 2, 6, 8, Jésus s'est dépouillé, il a pris la condition d'esclave, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'humilité. Combien de fois la pensée du Seigneur nous ramène à la pensée de l'humilité? La pensée du monde, c'est l'orgueil, la puissance, l'autorité, la force. La pensée primordiale qui était en Jésus-Christ, c'était l'humilité. Est-ce que tu es attiré par l'orgueil, la puissance, la force, la grandeur? Laisse ta pensée se corriger par la pensée de l'humilité qui était en Jésus-Christ. Deuxième pensée fondamentale qui était en Christ, la pensée de l'obéissance. Est-ce que tu aimes obéir? C'est fou, quoi. C'est fou. Je sais pas, je prends pas position, hein. J'ai même pas écouté les paroles de la chanson. Vous avez entendu la dernière chanson de Goldman, peut-être, qui fait la chanson des enfoirés. C'est un tollé général. Parce que Goldman, il a fait un crime de lèse-majesté, paraît-il. Il a mis en conflit des vieux types comme lui, plein de pognon, avec une pauvre jeunesse qui a été massacrée dans cette chanson. Je ne sais pas, je vais l'écouter parce que ça a l'air d'être assez, assez monstrueux, assez spectaculaire. Aujourd'hui, qui obéit encore à quoi? On ne peut pas dire pif, on ne peut pas dire pof, on ne peut pas dire pouf, qu'il y a une levée de 100 millions de boucliers. Qui obéit encore à quoi? Quelle est ta pensée? Tu as la pensée de l'obéissance en toi? Mes amis, c'est la pensée qui était dans le cœur de Christ. Il a appris l'obéissance, bien qu'il fût le Fils même de Dieu, l'élu, l'envoyé, le Messie. Et dans ces passages que j'aime beaucoup, dans Jean 4, 34, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père, de mon Père qui est dans les cieux. » C'est incroyable, ça. Obéir au Père, c'était la nourriture de Jésus. Et il mangeait avec ça. Moi, je ne mange pas en obéissant à Jésus, malheureusement. C'était la nourriture de Jésus. Et dans ce texte, c'est tellement clair. Vous savez, ce texte-là, c'est quand Jésus rencontre la Samaritaine. Et le texte commence, il fallait que Jésus passe par là. Parce que les Juifs, d'habitude, ne passaient pas par la Samarie. Il fallait que Jésus passe par là. Bien sûr, il fallait. Parce que Jésus savait qu'il allait rencontrer la Samaritaine. Il savait qu'il allait lui révéler qu'il était le Christ. Il savait qu'elle allait croire qu'il était le Christ. Il savait qu'elle allait aller dans son village et dire « J'ai rencontré le Christ !» Et que les autres, beaucoup d'autres, allaient dire « Elle a rencontré le Christ, mais c'est vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, c'est vraiment le Christ !» Donc, Jésus savait qu'il fallait qu'il passe par là. Mais c'est intéressant parce que pour parler avec cette femme, il avait soif. « Donne-moi à boire, » dit-il à cette femme. Et puis quand les disciples reviennent et que la conversation est terminée et que la femme est partie, les disciples ils reviennent et ils disent « Mais t'as pas faim? Tu devrais quand même manger. Comment est-ce qu'on va trouver à manger ?» Et c'est vrai que c'est logique. Il y a 2 minutes, Jésus avait soif. Il aurait pu quand même avoir faim en même temps. Eh bien, à ce moment-là, quand les disciples lui disent « Mais il faut qu'on trouve à manger. Qu'est-ce que tu vas manger ?» Lui, il dit « Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. Dès que je fais la volonté de mon Père, je suis nourri. Je suis nourri. » La troisième pensée qui était en Jésus-Christ omniprésente, c'était la pensée du salut. Tout le parcours de Jésus, tout ce que Jésus a fait, tous les signes qu'il a posés, que ce soit aux noces de Cana, que ce soit quand il lève un paralytique le jour du sabbat, que ce soit quand il guérit la main d'un lépreux, tous les signes que Jésus a posés, c'était pour l'accomplissement du plan du salut. C'était parce qu'il vient pour sauver les hommes. C'était chaque fois pour continuer le cheminement dans l'ère et dans l'histoire du salut. Mais c'est pour cette heure que je suis venu, dira le Seigneur après Gethsémané, l'heure de la croix. Tout ce qui a été fait, c'était dans le plan du salut. Il fallait qu'il passe par la Samarie, parce que c'était dans le plan du salut. Il fallait que le peuple samaritain, qui était en inimitié et avec le peuple juif, il fallait que dans ce peuple-là se révèle la délivrance et le salut. Tout ce que Jésus a fait a été modulé, construit par le plan du Saint, dans la pensée du salut. L'Esprit aussi, quand il nous parle, il attire notre attention sur les pensées qui étaient en Jésus-Christ. La pensée de l'humilité. Est-ce que tu es attiré par cette pensée dans toute une série d'options de pensée de ta vie? La pensée de l'obéissance? Est-ce qu'il y a des pensées qui vont vraiment dans le sens de l'obéissance à Christ ou pas? La pensée du salut? Est-ce que nous sommes sensibles avec les amis que nous avons, avec les enfants que nous avons, avec les voisins que nous avons, à continuer et continuer encore à avoir comme objectif le plan du salut, la pensée du salut des âmes? Est-ce que nous avons cette vision-là? Jésus revient bientôt. Alors, la question qui se pose, c'est, il y a d'abord une certitude. Le monde pollue tes pensées, il pollue mes pensées. Qui contrôle tes pensées? Qui contrôle tes pensées? Qui est le maître de ta vie? C'est celui qui contrôle tes pensées, en tout cas. Voulez-vous soumettre toute pensée à l'obéissance de Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez décider, oui, je veux soumettre mes pensées à l'obéissance du Christ? Alors, c'est l'Esprit qui est aux commandes de vos pensées. C'est alors, quand l'Esprit est aux commandes de vos pensées, qu'il va vous parler par la parole qui sanctifie, par la communion des frères et des sœurs, par la prière. Sommes-nous conduits par la pensée de l'humilité, de l'obéissance et du salut des âmes vers lesquelles tout le temps le Saint-Esprit nous ramène, parce que c'était les pensées fondamentales de Jésus-Christ? Rappelez-vous, mes amis, ne l'oubliez pas, ce que vous êtes, c'est ce que vous pensez toute la journée. Ce que vous faites, c'est ce que vous pensez toute la journée. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voudrions encore reprendre cet engagement, Seigneur, de te laisser aux commandes de notre vie. Merci, Seigneur, que tu nous as donné ton esprit. Merci que tu nous as donné des moyens précis pour être sensibles à ce que ton esprit a à nous dire. En particulier, ta parole qui est sanctifiée, ta parole qui est vérité. En particulier, la communion avec les frères et les sœurs. En particulier, les temps de prière, nous nous trouvons devant ta face et où, comme nous l'avons vu, tu gardes nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te demander que, quelle que soit notre histoire, notre passé, notre vécu, les cicatrices, les blessures, les traces qui sont dans notre vie, nous savons que nous avons acquis des manières de penser qui sont déformées, qui sont abîmées, qui sont entartrées. Seigneur, aujourd'hui encore, par la toute-puissance de ton esprit, tu peux et tu veux nous purifier, nous laver des pensées du monde. Nous voulons encore reconnaître, Seigneur, que c'est vrai. Il y a inimitié entre pratiquement toutes les pensées du monde et ta pensée à toi. C'est un point vrai que dans la prière sacerdotale, tu dis que nous ne sommes pas de ce monde. Et tu dis au Père, mais je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les protéger de Satan. Seigneur notre Dieu, merci pour cette prière. Merci que nous avons cette assurance que, comme on l'a dit tout à l'heure, notre protection est en toi, que tu es toujours fidèle, que tu es toujours le rocher. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander encore d'être fortifié dans ce désir de te laisser aux commandes de nos pensées. Viens à notre secours, Seigneur, et agis avec puissance, que nous puissions vraiment savoir que cet éclairage vient de toi, et non pas des hommes ou de philosophie, mais de toi, et de toi seul. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.